Histoire de la Réformation en Europe au temps de Calvin. Livre 5, chapitre 11. Formation de l'Église, adhérents, opposants. Du 13 au 31 décembre 1532. Colère de l'évêque, progrès de l'Évangile. Claudine pose ses parures, les dames genevoises, conversion de plusieurs d'entre elles, petites assemblées, l'Église sans forme et l'Église formée, un moine prêche l'Évangile, Thomas Moine et un sermon à la Madeleine, quatre huguenots demandent une dispute, la dispute avec le vicaire, des prêtres l'épée à la main, tumulte vers la Madeleine, le curé de Saint-Germain, défense à Froment de prêcher, le soir de Saint-Sylvestre. Tandis que l'Évangile manifestait ainsi sa puissance dans Genève, l'évêque persistait dans son inflexible hostilité. Les magistrats genevois avaient de grands égards pour lui. Le 13 décembre 1532, le Conseil lui envoya des députés pour obtenir son consentement à un impôt jugé nécessaire. Le sieur Chapeau-Rouge, l'ancien capitaine général Philippe et d'autres se présentèrent respectueusement devant lui. L'amour de l'ordre et l'obéissance due aux puissants établis étaient dans le caractère des hommes d'État genevois, et quoique navrés des abus dont le pouvoir de l'évêque était la source, ils ne pouvaient prendre sur eux de rien faire sans son consentement. L'évêque, flatté de ses égards, fit pendant 2 jours bon accueil aux députés. Mais le 3e, toute sa mauvaise humeur lui revint. Les ambassadeurs s'étant de nouveau présentés devant lui, « Je ne vous accorderai rien, leur dit-il vivement, pas même un écu, et j'obligerai messieurs de Genève à me demander pardon, mains jointes et à genoux. » Le 26 décembre, les envoyés rapportèrent ces paroles au conseil, qui en fut irrité. Et tandis que l'évêque envoyait à Genève de tels messages, qui n'amélioraient pas la cause de la papauté, la réformation, au contraire, cherchait de toute manière à éclairer les esprits et à gagner les cœurs. Froment, en rapport avec Farel et les fidèles de la Suisse, en recevait des testaments, des traités, des livres de controverses que ses amis et lui semaient de tous côtés dans la ville et qui y étaient lus avec avidité. De jour en jour, de nouvelles personnes étaient gagnées à la foi évangélique. Il y en avait de tous les états. Un certain bourgeois nommé Guérin, qui fabriquait et vendait des bonnets aux gens de la ville et de la campagne, prêtait l'oreille tout en travaillant dans sa boutique à tout ce qui se disait autour de lui et songeait sérieusement à la religion et aux abus de la papauté. Un jour, il se décida à se rendre à la Croix d'Or. Les paroles qu'il y entendit touchèrent son cœur, éclairèrent son esprit. Sensible, intelligent, modeste, d'un caractère décidé, il se donna à la cause de Dieu de toute son âme et bientôt il devint l'aide de Froment. Il y avait même parmi les convertis des gens de tout âge. Claude Bernard avait une fille de 7 à 8 ans à qui il fit connaître de bonne heure la Sainte Écriture. L'intelligence précoce de l'enfant fut frappée de quelques passages simples et clairs qui condamnaient les superstitions populaires et la petite controversiste confondait, nous dit-on, les prêtres ignorants. Incapable de lui répondre, il disait partout qu'elle était possédée du démon. Un Français de distinction, passant à Genève, voulut la voir et fut charmé de ses grâces enfantines et de sa piété. On vit bientôt qu'il ne s'agissait pas seulement d'une nouvelle doctrine. Une réformation morale accompagnait le renouvellement de la foi. Claudine Levet avait fort aimé la parure dans le temps de son catholicisme bigot. Sa conscience lui reprochait d'avoir été outre raison dans la recherche des accoutrements somptueux et plus empressée à orner son corps qu'apparaît son âme. Elle s'enferma un jour dans cette chambre où elle avait entendu l'appel de Dieu, se défit de toute braveté superflue, posa ses parements et ses dorures, dit Froment, qui ne lui avait servi qu'à se présenter d'une manière superbe, comme un paon qui fait la roue, et dès lors, elle eut une mise simple et décente. Ayant vendu ses plus belles robes et ses autres atours, Elle en donna l'argent aux pauvres, particulièrement aux fidèles évangéliques de France qui, chassés de leur patrie pour la vérité, venaient à Genève. Toute sa vie, elle aima à recevoir des réfugiés dans sa maison. Vraiment, disait-on, elle fait comme Tabitha appelée Torcas dans le livre des Actes, chapitre 9, et elle est digne d'être mise en mémoire perpétuelle. Claudine ne s'en tenait pas là. Elle faisait connaître franchement, doucement, la vérité précieuse qu'elle avait reçue et la répandait partout où elle se trouvait, çà et là dans la ville. Les prêtres, alarmés à la vue d'une transformation si étonnante, s'efforcèrent de la ramener aux pratiques de l'Église. Mais Claudine leur montrait bénignement, par les Écritures, ce qui était nécessaire, la foi et la charité. Tous ceux de la ville étaient étonnés de l'ouïr parler comme elle faisait. La nouvelle de sa conversion fit surtout une grande sensation parmi les dames genevoises. Un jour, les plus mondaines, se trouvant ensemble, ne parlaient d'autre chose que de la dame levée et de son éloignement de la messe et des divertissements. C'était Pernette Balthazarde, femme de l'un des conseillers, l'épouse de Boudichon de la Maisonneuve, la femme de Claude Pasta, Jeanne-Marie de Fernex et plusieurs autres honnêtes et riches bourgeoises. « Hélas, disait-elle, comment se fait-il qu'elle ait échangé en si bref temps ? Elle l'avait aimée, aussi regrettait-elle fort qu'elle se fût perdue. Elle déversait sur Froment leur colère. « Elle a oui cette cagne, disait-elle, et elle en a été bientôt ensorcelée. » Ces dames se décidèrent à ne plus la voir. Claudine ne désespéra pas de ses amis. Elle continua à vivre pour Dieu, et chacun put voir qu'une vie sainte et pleine de bonnes œuvres découlait de sa foi. Les dames genevoises, tout en ne voulant pas la fréquenter, la suivaient des yeux, et remarquant qu'elle persévérait dans le bien et qu'elle était toujours constante en exemple de sainte conversation, elles se rapprochèrent d'elle. Elles étaient curieuses de connaître la cause de ce singulier changement et commencèrent à lui parler quand elles la rencontraient. Quelques-unes même vinrent la voir. Alors Claudine, les recevant avec affection, leur parla de ce qui remplissait son cœur. C'était ce que ses amis désiraient. Elle leur présenta le Nouveau Testament et les invita à le lire, à aimer le Sauveur. Plusieurs de ces dames furent converties, en particulier celles que nous avons nommées. Claudine, qui leur était exemple de vie et de charité, les pressa de s'appliquer à une conduite chrétienne. « Mettez bas vos grandes pompes, leur disait-elle, accoutrez-vous simplement, sans superfluité, et adonnez-vous à grande charité. » La foi obtient le premier lieu, mais après cela viennent les bonnes œuvres. Ces femmes montrèrent en effet, dès lors, beaucoup de compassion pour les malheureux. La renommée en était grande, et l'Évangile en était honoré. Il semblait admis que nul ne fût homme ou femme chrétien s'il n'avait quelque pauvre étranger persécuté dans sa maison. Tel était le christianisme de Genève au moment où il commençait à paraître, et tel il fut pendant 2 siècles. Aimé Levé, d'abord très contraire à Froment et à l'Évangile, s'était peu à peu adouci. La sainteté et la charité de sa compagne lui firent goûter la parole de Dieu. Claudine gagna ainsi son mari au Seigneur. Dès lors, elle eut plus de liberté, et les réunions de la Croix d'Or étant insuffisantes, il se forma soit dans sa maison, soit dans d'autres, de petites assemblées. Et quand il n'y avait pas d'évangéliste capable d'expliquer la Bible, on priait cette pieuse chrétienne de le faire. Personne, lui disait-on, n'a reçu du Seigneur plus de grâce que vous. Claudine lisait alors l'Écriture et disait avec simplicité les vérités et les grâces qu'elle y avait trouvées. Les réformateurs ont rappelé ce précepte de saint Paul, « Que vos femmes se taisent dans l'Église ». Mais ils ont ajouté, « Il faut entendre ceci de la charge ordinaire, car il pourra advenir une telle nécessité » qu'il sera requis d'une femme de parler en public. Bientôt, le modeste Guérin, qui étudiait sa Bible jour et nuit, et d'autres chrétiens encore, prirent une grande part dans cette œuvre d'évangélisation. L'Église se formait. Il y avait eu d'abord, çà et là, dans Genève, quelques âmes réveillées isolément. Maintenant, à l'élément d'individualité, qui est le premier, se joignait celui de la communauté, qui n'est pas moins nécessaire, car le christianisme est un levain qui doit faire lever toute la pâte. Ceux qui avaient commencé à croire se réunissaient pour avancer ensemble dans la foi. Sans doute, ce n'était pas encore l'Église dans son état complet, avec toutes ses institutions. Les croyants, même sans former une Église, peuvent agir l'un sur l'autre, prier en commun, célébrer ensemble la scène. C'est ainsi que les choses commencent d'ordinaire. Cet état de transition, dont il faut reconnaître la légitimité, prouve que l'organisation ecclésiastique, avec ministres, anciens, diacres, presbytères, synodes, n'a pas la priorité dans le christianisme, que c'est à la foi et à la sanctification chrétienne que la prééminence appartient. Toutefois, cette manière d'être imparfaite ne peut suffire. Elle a bien des lacunes, elle offre bien des périls. L'Église doit se former. Elle parvint en effet plus tard dans Genève, sous Calvin, à sa forme complète. Il serait ridicule de nier à l'homme le droit d'être d'abord enfant, mais il ne le serait pas moins de lui refuser le droit et le devoir de devenir homme. Un secours inattendu arriva dans ce moment aux évangéliques. Un franciscain venu de l'étranger commença à prêcher l'Avent dans l'église de Rives et ce moine, Christophe Bocquet, se trouva avoir quelque penchant pour l'Évangile. Appelé à prêcher dans une ville où les deux parties se faisaient la guerre, il laissa les superstitions et les injures, thème fréquent de quelques prédicateurs catholiques, mais en même temps il s'abstenait de certaines doctrines distinctes de la Réformation qu'il ne comprenait guère et, s'en tenant à un certain fond commun du christianisme, faisait des sermons modérés. Vêtu de la robe brune, saint de la corde, la tête humblement inclinée, il entrait dans l'église des Cordeliers, montait en chaire et, contemplant la foule mélangée qui la remplissait, il annonçait à tous un sauveur venu non en apparence magnifique, mais en affection débonnaire, et il demandait qu'à sa vue tous les cœurs s'égayassent de joie. Les évangéliques étaient édifiés, et le nombre de ceux qui fréquentaient l'église augmentait de jour en jour. Mais à peine le frère Christophe avait-il parachevé son sermon que les huguenots couraient à l'assemblée de Froment, dont la trompette rendait un son moins confus. Il n'était même pas seul à s'y rendre. Plusieurs catholiques, entendant dire aux réformés que le moine et le maître d'école prêchaient au fond les mêmes choses, suivaient la procession qui se rendait à la Croix d'Or, et quelques-uns prenaient goût à ce qu'ils entendaient. Ainsi, le peuple s'éclairait de plus en plus. Les évangéliques se réunissaient tantôt chez l'un, tantôt chez l'autre, ils lisaient les petits traités qu'on leur envoyait, ils les discutaient, mais surtout ils s'attachaient à la Sainte Écriture. C'était là seulement que ces simples chrétiens voulaient chercher les lumières dont leur conscience avait besoin. « Étudions particulièrement l'Écriture sainte, disait-il, afin de distinguer dans la religion ce qui vient de Dieu de ce que les hommes y ont ajouté. » Les jeunes voix sortaient de ces conférences affermis et joyeux, et leur amour de la parole de Dieu ne cessait de s'accroître. Si la Réformation avait de fidèles adhérents dans Genève, elle y trouvait des adversaires énergiques. Les prêtres, étonnés, désorientés, semblaient dormir. Se contentant d'une guerre de détails, ils ne faisaient pas au mouvement évangélique une opposition vive et combinée. Ce furent les laïcs qui poussèrent le cri d'alarme. S'indignant de l'inertie de leur clergé, ils donnèrent le signal de la guerre sainte, destinée selon eux à chasser les infidèles de leur bien-aimée Sion. À leur tête se trouvait Thomas Moine, homme décidé, passionné, parlant avec facilité et qui avait ainsi acquis une grande considération dans le parti romain. Il se plaignait de ce qu'on laissait l'ennemi s'établir peu à peu dans l'antique cité épiscopale. Il disait qu'il était temps de se réveiller. Il reprochait aux ecclésiastiques de Genève leur lâcheté. Moine ne parla pas en vain. Le vicaire de la Madeleine, touché de ses discours, résolut de relever l'honneur de son église et de sa corporation, et annonça qu'il prêcherait contre le maître d'école hérétique et même contre le prédicateur étranger. Le vaste temple fut bientôt plein de fervents catholiques, au milieu duquel se trouvaient aussi des réformés, en particulier Chautan, Claude Bernard, Salomon et Perrin. Le vicaire loua l'Église catholique, apostolique et romaine, exalta son chef qui est, dit-il, le représentant de Dieu même, et défendit son culte, ses institutions. Puis, ayant fait ainsi l'éloge de la bergerie, il décrivit les loups qui tournaient autour d'elle pour dévorer les brebis. Il accusa Froment d'ignorance, de mensonge, et conjura ses auditeurs de ne pas se jeter entre les pattes des bêtes fauves, des larrons, des brigands. Les quatre huguenots qu'il avait entendus se réunirent au sortir de l'église pour examiner ce qu'il y avait à faire. Ces hommes qui, au premier moment, avaient fait ainsi que d'autres un si mauvais accueil au maître d'école, avaient été touchés, au moins trois d'entre eux, par la simple prédication de l'Évangile. La Bible, nous l'avons vu, était devenue leur tribunal d'appel, ce qui désolait les prêtres qui n'osaient nier la divinité de ce livre, mais qui, ne l'ayant jamais étudié, étaient fort embarrassés pour y trouver les preuves de leur dogme. Ainsi, après avoir délibéré, Chotan et ses amis se rendirent chez le vicaire. Froment, lui dirent-ils, est un homme docte et lettré. Vous dites qu'il a menti. Prouvez-le par la Sainte Écriture. Le vicaire y ayant consenti, les Huguenots demandèrent que la dispute se fît dans un lieu public, pour que tous purent en profiter. Mais le prêtre exigea qu'elle eût lieu dans la maison de la cure. Les champions de la Réformation cédèrent, et l'on s'entendit. La dispute devait avoir lieu le dernier jour de l'année. Le pauvre vicaire, il se nommait Claude Pellier, était très embarrassé. Il se retira dans sa chambre, prit sa vulgate, qu'il n'ouvrait pas souvent, et se mit à chercher des passages pour combattre les doctrines réformées. Mais il avait beau feuilleter, il ne trouvait rien. Le 31 décembre, jour de Saint-Sylvestre, après-midi, Chotan, Bernard, Perrin et Salomon arrivèrent à la cure de la Madeleine, l'épée au côté selon la coutume. Quelques prêtres que le vicaire avait convoqués s'y trouvaient déjà. Mais le champion du catholicisme romain se faisait attendre. Il n'avait pas encore pu trouver un seul texte et pourtant les adversaires étaient là. Les quatre Huguenots détachèrent leurs ceintures, jetèrent leurs épées sur le lit et, se plaçant avec les prêtres autour d'une table, ils se mirent à parler familièrement avec eux. Enfin, le vicaire, qui avait eu peine à se détacher de ses in-folio, espérant toujours y trouver quelque chose, arriva avec un gros volume sous le bras. Les Huguenots qui entouraient la table se levèrent. Il y avait dessus, il faut le dire, des bouteilles de vin qu'ils avaient vidées en commun avec les prêtres en attendant le curé. Perrin avait payé. Alors la conférence commença. Le vicaire ouvrit son gros volume où quelques bandes de papier indiquaient les places qu'il croyait lui être favorables et lut un long passage contraire à la doctrine de Froment. « Qu'est-ce que ce livre ? » s'écria Perrin. « Ce n'est pas la Bible. » Les Huguenots ajoutèrent « Vous n'avez pu trouver dans la Bible un seul mot pour répondre à Froment. » Et ils se moquaient de lui. « Comment ? » dit le vicaire rouge de colère. « Que dites-vous ? Ce sont les commentaires perpétuels sur la Bible. » « Postillae perpetuae in biblia » de l'illustre Nicolas de Lyre. « Mais vous avez promis de réfuter Froment par les Écritures de Dieu. »« Lyre, reprit le prêtre, le grand Lyre, en est l'interprète le plus approuvé. » Les Huguenots étaient décidés à ne pas accepter les commentaires des hommes comme étant la parole même de Dieu. La Bible, incorruptible, infaillible, devant laquelle tous les systèmes humains devaient tomber, telle était à leurs yeux l'unique autorité. « Lyre n'est pas un bon docteur, » reprit Perrin. « Oui, non, oui, non. Vous ne tenez pas votre parole. » Perrin avait de l'intelligence plutôt que de la vraie piété. Il était une lampe, mais sans huile. Orgueilleux, violent, téméraire, il voulait que tout pliât devant lui. Le vicaire le voulait de même. La querelle s'échauffa, et au lieu de discuter, on s'injuria. Alors un des ecclésiastiques s'échappa furtivement, et tout à coup, une troupe de prêtres entrèrent, ayant à leur tête un certain Delaroche, qui tenait une épée dégainée à la main et la poussait ferme devant lui. « Quoi ? » dit Claude Bernard. « Nous sommes venus, à la bonne foi, quatre seulement dans votre maison pour disputer. Nous avons bu avec les vôtres. Nous avons jeté nos épées sur le lit, et vous faites venir séditieusement une troupe de prêtres en armes. C'est un guet-apens. » À ces mots, les quatre citoyens prennent leurs épées, se font jour à travers leurs opposants, descendent sur la place et s'y tiennent prêts à se défendre. Un des prêtres courut aux cloches de la Madeleine et fit sonner le tocsin. Ainsi se termina la première dispute théologique à Genève. C'était environ midi, heure favorable à l'émeute. En entendant la cloche de la Madeleine, la ville fut émue et le monde accourut. On disait que les Huguenots voulaient s'emparer de l'église pour y faire prêcher le maître d'école. Des prêtres s'avançaient avec leurs adhérents afin de défendre le sanctuaire, et des Huguenots prenaient les armes pour protéger leurs frères bloqués devant le temple. « Hélas !» disaient les amis de la paix, « les prêtres eux-mêmes sonnent le tocsin et engagent ainsi les citoyens à s'égorger les uns les autres. » Les quatre Huguenots, l'épée nue, adossés au mur de l'église, se préparaient à recevoir rudement le clergé. Ceux de leurs amis qui arrivaient se rangeaient à côté d'eux. Le tumulte était général. « Serrons l'église !» disaient les prêtres. Ils voulaient l'entourer pour empêcher qu'un évangélique n'y entrât. De tous côtés, des huguenots et des catholiques couraient à la Madeleine. L'épouvante saisit les plus timides. Les pauvres dames de Sainte-Claire, qui étaient à dîner, entendant le bruit, se levèrent de table tout effrayées. « Hélas !» dirent-elles, « ils nous ont menacés de nous faire marier, et ils vont accomplir leur abominable dessein. » Elles firent une procession dans leur église et dans leur jardin, avec grande dévotion et avec larmes. On sortait en ce moment du conseil. Deux des syndics, Ramel et Savoie, qui descendaient chez eux, devaient passer au milieu de l'émeute. Les deux parties étaient sur le point d'en venir aux mains. Les syndics s'avancèrent, arrêtèrent les combattants, étendant leurs bâtons d'office, et leur ordonnèrent de poser les armes, ce qui fut fait. Il n'y eut point de meurtre ni de violence. Mais tout n'était pas fini. Quelques membres du chapitre et plusieurs prêtres, apprenant qu'il y avait une bataille autour de Sainte-Madeleine, s'étaient groupés dans la rue des Chanoines et Guillaume Canal, curé de Saint-Germain, les haranguait. La foi catholique est menacée, le trône du pape est ébranlé, le grand honneur que l'on doit à Marie est en danger, il faut se jeter sur ceux qui l'attaquent et délivrer la ville de leurs personnes et de leurs erreurs. Tel était le sommaire de son discours. Le tumulte étant alors apaisé autour de l'église, le lieutenant de justice de Châteauneuf s'était porté à la rue des Chanoines où il avait appris que les prêtres s'agitaient. Les voyant décidés à descendre à la suite de Canal, l'épée à la main, du côté de la Madeleine, il leur ordonna de s'arrêter. Le curé de Saint-Germain, n'entendant pas se soumettre aux ordres d'un magistrat civil, se précipita avec emportement vers le temple. Châteauneuf mit la main sur lui, alors le curé rebelle se retourna et leva son arquebuse sur cet officier. Mais noble Jean Lect arrêta le coup. Canal se sauva et les autres prêtres se dispersèrent. Le soir, le conseil s'assembla. Les deux opinions avaient des représentants dans ce corps qui clochait des deux côtés. Après un tumulte comme celui qui venait d'avoir lieu, il fallait prendre quelques mesures, d'autant plus que c'était le lendemain, le premier jour de l'an, et qu'en de tels jours, les esprits s'excitent plus facilement. Le conseil fit convoquer les principaux amis de la réforme. Froment lui-même fut invité, mais les registres ne mentionnent pas sa présence. « Nous vous exhortons, dirent les syndics, à faire qu'Antoine Froment cesse de disputer et de prêcher, ainsi que les autres qui enseignent par les maisons, et nous vous conjurons de vivre comme nos pères. » Nul ne voulut rien promettre. Au contraire, les réformés, en se retirant, disaient « Nous irons ouïr la parole de Dieu partout où nous le pourrons, personne n'a le droit de la cacher. » Puis, se rendant vers Froment, ils le supplièrent de ne pas se taire devant ses défenses. « Nous sommes contraints, disait-il, d'entendre le maître d'école et ses amis parce qu'on n'observe pas l'arrêt du conseil qui a commandé de faire prêcher la parole de Dieu dans toutes les paroisses. » Les réformés, tout en voulant obéir à Dieu, se plaçaient donc dans le droit. Ils invoquaient des ordonnances légitimes. C'était le terrain sur lequel ils entendaient se maintenir. Le conseil, reconnaissant que cette position des évangéliques était inattaquable, appela le vicaire épiscopal, l'abbé de Beaumont, et le pria de retenir à Genève le cordelier qui avait si bien prêché l'avant, et de presser les dominicains de se pourvoir de leur côté d'un prédicateur propre à édifier leur auditoire. Il demanda qu'il y eût dans toutes les paroisses de vrais prédicateurs de la parole de Dieu. Le vicaire épiscopal, homme pacifique, s'engagea à tout et même à punir le prêtre Canal. L'émeute était apaisée, mais une grande agitation régnait encore dans les esprits. Les uns disaient que la tempête était finie, les autres qu'elle pourrait bien s'élever de nouveau. Comme c'était le soir de Saint-Sylvestre, de nombreuses réunions se formaient dans la ville et les catholiques et les huguenots, également échauffés, attendaient avec anxiété le lendemain.